Quelqu'un a dit « Le temps et l'usage rendent l'homme sage ». Le meilleur moyen de tester un tel proverbe est sur quelqu'un d'imprévisible et capricieux, et il se trouve que l'empereur perse Xerxès est le candidat idéal. Sur un coup de tête, il a destitué sa reine par un décret béton, selon une loi qui, soi-disant, ne peut pas être changée. Mais il est fort connu qu'un tyran au pouvoir illimité fait ce qu'il veut et renverse n'importe quel décret qui ne peut être abrogé. Et c'est ce qui risque fort de se produire à la cour du roi. Je commence à lire le chapitre 2 du livre d'Esther. Au bout d'un certain temps, la colère de l'empereur Xerxès se calma. Il repensa à ce qu'avait fait Vasti. Et il réfléchit à la décision qui avait été prise à son sujet. Alors les courtisans attachés à son service lui dirent « Que l'on recherche pour l'empereur des jeunes filles vierges et belles. » Esther, chapitre 2, les versets 1 et 2. Vasti a été renvoyée chez sa mère en l'an 482, la troisième année du règne de Xerxès. Ensuite a eu lieu la longue expédition militaire contre la Grèce qui se termina par un désastre. Le roi revint donc dans ses foyers 4 ans plus tard, vers l'an 479, après avoir subi une défaite particulièrement humiliante parce que son armée considérable a été battue par un nombre bien inférieur de soldats de la triade de combat. Il faut dire qu'à cette époque, les Grecs savent se battre. Ils placent l'accent sur l'individu et chaque combattant est parfaitement entraîné, bien armé, ce qui fait qu'il vaut 10 combattants perses. Le roi arrive donc à son palais, la mine déconfite. À son malheur s'ajoute le fait qu'il n'a plus de reine puisqu'il l'a congédiée. Tout ça fait vraiment désordre, alors il déprime. Et puis, il repense à Vasti. 4 années ont passé et sa colère s'est dissipée. Il arpente son palais de long en large et se dit qu'il aurait peut-être pas dû agir aussi précipitamment. Après tout, la désobéissance dont la reine s'est rendue coupable repose sur un sentiment honorable. Elle n'a pas voulu être traitée de manière dégradante par des hommes ivres. La punition a été excessive et il songe à lui pardonner et à la reprendre. Il en parle donc à ses conseillers qui ont des sueurs froides. En effet, si Vasti rentre en faveur, tous ceux qui ont voté pour son renvoi passent à l'échafaud. Un historien raconte qu'après avoir perdu la guerre contre la Grèce, Xerxès s'est consolé en se livrant de plus en plus à ses passions licencieuses. Alors bien sûr, ses conseillers vont exploiter cette faiblesse du début à la fin du livre. Il apparaît nettement qu'au travers de toute leur courbette, les sages mènent le roi par le bout du nez. Il faut dire que les gens impétueux, capricieux et indisciplinés sont des faibles plutôt faciles à manipuler. Je continue. Que l'empereur désigne donc des fonctionnaires chargés de sélectionner dans toutes les provinces de son empire toutes les jeunes filles vierges et belles et de les amener dans le harem de la citadelle de Suse pour les confier à Égée, l'eunuque de l'empereur qui a la garde des femmes. On leur fournira tous les produits de beauté nécessaires. La jeune fille qui aura la préférence de l'empereur succédera comme impératrice à Vasti. Cette proposition plut à l'empereur qui la fit mettre à exécution. Esther, chapitre 2, les versets 3 et 4. De nouvelles jeunes filles sont constamment introduites dans le harem pour remplacer celles qui sont trop âgées au goût du roi et qui lui déplaisent pour une raison ou pour une autre. Mais cette fois-ci, c'est une reine qu'on recherche et il faudra qu'elle rivalise en grâce avec Vasti, la très belle. On organise donc un gigantesque concours de beauté. Je continue. Or, dans la citadelle de Suse vivait un juif nommé Mardoché. Il était fils de Yaïr, un descendant de Chiméi et de Kish de la tribu de Benjamin. Sa famille avait été déportée de Jérusalem avec les autres exilés emmenés par Nebuchadnezzar, roi de Babylone, en même temps que Yoconia, roi de Juda. Esther, chapitre 2, les versets 5 et 6. Jusqu'à là, l'auteur a planté le décor. Il a présenté le cadre du récit, l'époque, le lieu et le contexte politique. Il nous a introduits dans le palais d'un roi païen au caractère exécrable et qui est dominé par ses passions, et ce sont ses conseillers qui dirigent un empire décadent. On a assisté à des beuveries, à une guerre désastreuse et à la politique des couloirs. Mais en filigrane, derrière toutes ces situations, dans sa souveraineté, c'est l'Éternel qui tire les ficelles. Maintenant, on entre dans le vif du sujet avec les deux personnages principaux qui prennent soudainement le devant de la scène. L'auteur aime introduire les faits nouveaux d'une manière abrupte. Comme dans un jeu d'échecs, Dieu avance les pions. Il met en place les éléments et les personnages qui vont contribuer à prouver qu'il est l'Éternel et qu'il protège son peuple. Qu'est-ce que fait ce Mardochée ici? Sa lignée montre que lui et Esther sont probablement de la famille de Saül, premier roi d'Israël. Un peu plus loin, on apprend que son arrière-grand-père, Kish, fut déporté en 597 avant Jésus-Christ. Cependant, après que Cyrus devienne le nouvel homme fort du Moyen-Orient, il décrète que tous les Juifs de son empire peuvent, s'ils le désirent, regagner leur pays d'origine. Mais la plupart d'entre eux choisissent de rester en terre d'exil parce qu'ils s'y trouvent très bien, ayant été bénis par Dieu. En effet, après la conquête de la Babylonie par Cyrus en 539 avant Jésus-Christ, certains Juifs s'installent au milieu des Mèdes ou en territoire perse, comme l'attestent des textes datant du 5e siècle découverts en Mésopotamie, en Irak. Ces archives contiennent les noms d'une centaine de Juifs vivants dans la ville de Suse, dont plusieurs sont de hauts fonctionnaires du royaume. La suite du récit nous fait découvrir que Mardochée occupe une fonction gouvernementale et que sa vie est plutôt confortable. Il est juif d'origine et croit que l'Éternel est le seul vrai Dieu, mais c'est à peu près tout ce qui lui reste de son héritage religieux. C'est un peu comme ceux qui, aujourd'hui, se disent catholiques, mais ne pratiquent pas. Mardochée signifie « dévoué à Marduk », qui est la principale divinité babylonienne. Ce nom lui a été donné par le roi, mais comme son nom hébreu ne nous est pas donné, c'est qu'il est davantage perse qu'israélite. Une tablette cunéiforme découverte près de Babylone et datant du début du règne de Xerxès mentionne un fonctionnaire de la cour impériale de Suse du nom de Marduka. Il est possible qu'il s'agisse de Mardochée, car il était fréquent que la même personne porte plusieurs noms à consonance similaire. Je continue. Mardochée avait élevé sa cousine Hadassa, c'est-à-dire Esther, orpheline de père et de mère. Cette jeune fille était bien faite et d'une grande beauté. À la mort de ses parents, Mardochée l'avait adoptée comme sa fille. Esther, chapitre 2, verset 7. Le nom juif Hadassa signifie myrte, un arbuste dont les feuilles odoriférantes sont toujours verdoyantes. Esther veut dire étoile, à moins que ce nom ne dérive du mot Istar, la déesse babylonienne de l'amour et de la guerre correspondant à Astarté chez les Phéniciens. Je continue. Après la proclamation de l'ordonnance de l'empereur et de son décret, de nombreuses jeunes filles furent rassemblées dans la citadelle de Suse sous la surveillance de Égée. Esther fut aussi emmenée au palais impérial et confiée aux soins de Égée, le responsable du harem. La jeune fille lui plut et gagna sa faveur. Il se mit en peine de lui offrir tout ce qu'il fallait en produits de beauté et pour son régime. Il mit à sa disposition 7 jeunes servantes sélectionnées parmi le personnel du palais impérial et il la transféra, elle et ses servantes, dans le meilleur appartement du harem. Esther, chapitre 2, les versets 8 et 9. Étant donné que Mardochée habite dans la citadelle, il ne lui est pas possible de cacher sa cousine et de toute façon, elle entre dans le plan de Dieu. Comme c'est une très belle fille, elle fait aussi partie de la rafle et du concours de beauté. Et c'est ainsi qu'elle se retrouve dans le harem en attendant son tour de passer une nuit avec le roi. C'est peut-être une prison, mais dorée, d'un très grand luxe au point où on met 7 servantes à sa disposition. De plus, les jeunes filles qui seront introduites, les premières auprès du roi, reçoivent une nourriture plus délicate et sont promues aux meilleurs appartements. Contrairement au prophète Daniel, Esther ne se soumet pas aux lois alimentaires ordonnées par Moïse, soit parce que de toute façon, elle ne s'y conforme pas, soit parce que si elle est choisie comme reine, elle devra partager la table du roi. Et lui ne mange pas cachère. Si l'eunuque avait su qu'elle était juive, elle n'aurait certainement pas été aussi bien traitée. Tout au long du livre, l'auteur met bien en avant le fait que Dieu va protéger et utiliser Esther et Mardochée, malgré le fait que ni l'un ni l'autre ne respectent la loi donnée par l'Éternel à Israël. Selon ses préceptes, Esther ne doit pas se marier avec un païen, ni avoir de relations sexuelles avec un homme qui n'est pas légalement son mari. L'eunuque, patron du harem, tombe sous le charme d'Esther, et il en est de même pour tous ceux qui s'approchent d'elle. L'empereur inclus, bien sûr. Je continue. Esther n'avait révélé ni sa nation, ni sa famille d'origine, car Mardochée le lui avait interdit. Chaque jour, il se rendait devant la cour du harem pour prendre des nouvelles d'Esther et savoir comment on la traitait. Esther, chapitre 2, les versets 10 et 11. Mardochée a ses entrées au palais parce qu'il fait partie des officiels. La suite du texte sous-entend qu'il occupe une charge importante au palais impérial, sans doute portier, comme il ne peut pas se rendre à l'intérieur du harem. C'est probablement par l'intermédiaire d'une servante qu'il reçoit des nouvelles de sa cousine. Maintenant qu'Esther fait partie du concours, Mardochée ne veut toujours pas qu'elle révèle son origine juive afin de ne pas recevoir un moins bon traitement et ainsi compromettre ses chances de devenir reine. Si par hasard elle le devient, Mardochée compte peut-être en tirer parti. Par ailleurs, comme il veut la meilleure vie possible pour sa cousine, il va sans dire qu'il est préférable d'être reine que concubine, c'est-à-dire un simple objet relégué dans un coin et qui attend le bon plaisir du monarque. Soit dit en passant que l'antisémitisme n'est pas un phénomène nouveau. Il existe depuis toujours dans toutes les nations. En taisant leur nationalité, Mardochée et Esther exprime aussi la gêne de faire partie du peuple élu. Il semble que tous deux ne sont pas très pieux et tout au moins ne se confient pas aux dieux de leurs ancêtres. L'auteur révèle bien leurs défauts afin de mettre en valeur la fidélité de Dieu à son alliance et sa providence envers son peuple. Je continue. Les jeunes filles se rendaient chacune à son tour chez l'empereur Xerxès. Au terme du traitement de beauté prescrit pour 12 mois par le protocole des femmes. Pour ce traitement, on utilisait pendant 6 mois de l'huile de myrte et pendant 6 autres mois des baumes aromatiques et divers produits de beauté employés par les femmes. Esther, chapitre 2, verset 12. Tous ces traitements de beauté ont pour seul but de rendre chaque femme davantage attrayante et agréable au roi. Elle nage dans l'huile, les crèmes et le parfum. Toute cette importance accordée à l'aspect physique est typique d'une vision très païenne de la vie, où ce qui compte est le plaisir de l'instant qui passe trop vite. Plus une culture s'éloigne du Dieu du ciel, et plus les salons féminins se multiplient. L'intérêt spirituel des gens est, semble-t-il, inversement proportionnel au nombre de produits de beauté sur le marché. Jadis, Madame allait de temps en temps chez le coiffeur pour une permanente. C'était, en tout cas, ce que faisait ma mère quand j'étais enfant. Mais aujourd'hui, c'est tout le corps qu'il faut traiter, améliorer, sculpter. À côté du maquillage traditionnel, de plus en plus élaboré, on se fait les ongles, un petit bronzage artificiel, étirer la peau pour supprimer les rides, réduire les contours adipeux excessifs, par liposuction. Et bien sûr, il y a des rajouts indispensables comme les extensions pour cheveux, les faux ongles, les faux cils et les faux seins sous forme d'implants gélatineux. On en rajoute quelque part et on en enlève ailleurs. J'en oublie, c'est sûr, mais ça fait marcher le commerce et a permis une formidable avancée de la chirurgie esthétique. Cela dit, il faut de la mesure en tout. Un peu de maquillage pour les femmes qui ont atteint l'âge mûr n'est pas mal en soi. C'est à chaque dame de décider pour elle-même. Bref, quelle que soit l'époque, les empereurs ne se refusent rien, et en Orient, ils sont très raffinés. À la cour perse, on prend une jeune fille déjà éminemment belle à croquer, et on la fait mijoter pendant un an dans l'huile et des baumes parfumés. Je m'imagine que le résultat est à vous couper le souffle, elle est lauréate, digne de n'importe quel conte des mille et une nuits. Je continue le texte. Puis, lorsque venait le tour d'une jeune fille de se rendre chez l'empereur, on lui donnait tout ce qu'elle demandait pour emporter du harem au palais impérial. Elle s'y rendait le soir, et le lendemain matin, elle était conduite dans un second harem et confiée à la responsabilité de Shafgaz, l'eunuque de l'empereur chargé de la garde des épouses de second rang. Elle ne retournait plus chez l'empereur, à moins que celui-ci n'en manifeste le désir et ne la fasse appeler par son nom. Esther chapitre 2, les versets 13 et 14. Entendons-nous bien. Cette année de préparation de la jeune fille a pour seul et unique objectif le plaisir de l'empereur pendant une nuit. Il y a des coups de fusil qui se perdent. En parallèle, c'est un concours de beauté parce qu'il choisira la plus belle ou la plus séduisante pour être sa reine. Une figurine décorative certes, mais qui dispose quand même d'un grand pouvoir et de privilèges à n'en plus finir. Alors, évidemment, ces ravissantes jeunes filles désirent toutes devenir l'impératrice. Donc, pour cette seule nuit avec Xerxès, la jeune fille se pare le mieux possible, porte des vêtements de soie magnifiques et les plus beaux bijoux du royaume. Chacune choisit ce qui, à ses yeux, mettra le mieux en valeur ses charmes féminins naturels. Une fois passée la nuit avec l'empereur, la femme devient une épouse de second rang. Elle est mise au placard, mais de luxe, il faut bien préciser. En effet, les concubines ne manquent de rien et n'ont qu'une seule responsabilité, entretenir leur beauté au cas où le despote la désire à nouveau. Ce qui est plutôt rare parce qu'elles sont nombreuses, et lui, le tyran, il préfère le neuf à l'occasion. Le temps passe vite et voilà que c'est le tour d'Esther. Mardoché a misé gros. Façon de parler parce qu'en réalité, il n'avait pas le choix. Comme je l'ai dit, si elle n'est pas choisie comme reine, elle finira ses jours au rebut, dans le harem d'un roi païen. Ce qui, pour une jeune fille juive, est scandaleux, une honte, et va à l'encontre de sa culture et de la loi de Moïse. Je continue. Quand vint le tour d'Esther, fille d'Abigaïl, l'oncle de Mardoché, qui l'avait adoptée comme sa fille, d'aller chez l'empereur, elle ne demanda rien d'autre que ce qu'avait indiqué Égée, l'eunuque de l'empereur, gardien des femmes. Elle gagnait la faveur de tous ceux qui la voyaient. Esther chapitre 2, verset 15. Esther est devenue très populaire pendant cette année de préparation, étant naturellement très belle. Elle aurait pu faire des jalouses, mais apparemment, tout le monde l'aime bien. Elle est naturellement belle, mais sans doute aussi aimable, douce, humble et vertueuse. L'Éternel s'est déjà arrangé pour que Égée, l'eunuque en chef, la préfère entre toutes, mais aussi pour qu'elle soit déjà reconnue par tous comme la future gagnante du concours de beauté. Dieu avance ses pions sur l'échiquier du Moyen-Orient. Il se prépare à défendre son peuple contre le sinistre complot que le grand vizir Aman va organiser contre les Juifs. L'Éternel va respecter les engagements qu'il a pris et toutes les promesses qu'il a faites aux ancêtres d'Israël depuis Abraham jusqu'à David. Son peuple ne sera pas anéanti. Lorsque le jour fatidique arrive pour une jeune fille de passer la nuit avec l'empereur, elle profite de cette occasion unique pour se faire donner des vêtements somptueux et les plus beaux ornements. Esther a bien l'intention de remporter la palme d'or et devenir l'impératrice, mais elle est à la fois modeste et sage en se remettant au jugement de l'eunuque Égée. En tant que gardien du harem, il connaît parfaitement bien son maître et ses goûts en matière d'habillement et de froufrou pour ses femmes. Je continue. C'est le 10e mois, c'est-à-dire au mois de Tébet, de la 7e année du règne, que l'on vient prendre Esther pour l'emmener chez l'empereur au palais impérial. L'empereur aima Esther plus que toutes les autres femmes, elle gagna sa faveur et sa bienveillance mieux que toutes les autres jeunes filles. Alors, il mit sur sa tête la couronne impériale et la fit proclamer impératrice à la place de Vatsi, Esther, chapitre 2, les versets 16 et 17. Pendant l'exil, les Juifs ont adopté les noms babyloniens pour les mois de l'année. Tébet est à cheval sur décembre et janvier. Nous sommes donc soit à la fin de l'an 479 ou au début de 478 avant Jésus-Christ. Tout comme Égée, le chef eunuque précédemment, l'empereur est ébloui par Esther. Mais en réalité, c'est Dieu qui lui en met plein la vue parce que ce roi païen est paillard, mais rien d'autre qu'une marionnette entre ses mains. Il a préféré Esther à toutes les autres pour des raisons qui ne nous sont pas données et qui, importe peu, parce que dans sa souveraineté, l'Éternel a jeté les dés d'avance. Il a décidé qu'Esther occupera la position stratégique d'impératrice car il aura bientôt besoin d'elle à ce poste. Cela dit, il est quand même émouvant de lire cette histoire et de voir ce qui est arrivé à cette petite juive orpheline dont les ancêtres ont été déportés à Babylone. Dans le livre de Samuel, et en parlant de l'Éternel, on lit « De la poussière, il arrache le pauvre, et il relève l'indigent de la fange pour l'installer au milieu des puissants et lui donner une place d'honneur. » 1 Samuel, chapitre 2, verset 8. De façon soudaine et inattendue, Esther devient la reine de ce qui est alors la première puissance du Moyen-Orient. Sa venue au pouvoir enseigne qu'en filigrane, dans les coulisses, derrière les comportements aberrants et méchants des hommes, l'Éternel veille et agit. Il fait ce qu'il veut selon le conseil de sa seule volonté. Moi, je trouve ça réconfortant.